Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, l'expert.
Notre expert ce matin, c'est Jean-Charles Simon, président de Station et président d'ETF Patrimoine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce qu'on va expertiser, c'est ce qu'on appelle l'affaire McKinsey, c'est-à-dire de savoir si le fait d'utiliser les cabinets de conseil, notamment McKinsey, par le gouvernement, constitue ou pas quelque chose de normal ou au contraire d'excessif.
Eh bien, je pense qu'il faut regarder les chiffres. D'abord, les chiffres, quels sont-ils? Ce que dit le Sénat, c'est 893 millions d'euros en 2021 pour tout l'appareil d'État. Ce que dit le secteur, c'est que ça a déjà été plus important, notamment en 2009-2010, on était au-dessus du milliard d'euros. Et 893 millions d'euros, ça veut dire moins de 0,3% de la masse salariale de l'État. Donc, il faut bien voir que le conseil, c'est d'abord de la ressource humaine complémentaire et que donc, il faut rapporter ça à la ressource humaine pérenne de l'État, du secteur public, qui est de... Donc 0,3% de l'ensemble. Si on regarde aussi par rapport à nos voisins étrangers, ce même taux de 0,3%, il est 5 fois plus élevé dans un pays comme l'Allemagne. Donc on a un recours en France qui reste modeste par rapport à celui de nos voisins étrangers. Et peut-être encore plus important, c'est donc 893 millions à comparer à 6,5 milliards que le secteur privé utilise pour les mêmes prestations avec les mêmes conseils en France. Ça veut dire que ce besoin de ressources humaines complémentaires, d'appui sur les projets, d'appui sur la transformation, il est extrêmement important. Et si les organisations privées l'utilisent donc beaucoup plus que l'État, c'est parce que ça marche, c'est efficace, ça permet de faire des gains, ça transforme, ça évite des dysfonctionnements, ça allège des coûts. Donc c'est quelque chose qui est optimal et gagnant pour l'organisation qui y recourt.
En plus, une somme répartie, ce que dit d'ailleurs le rapport du Sénat, entre une vingtaine de grands cabinets, et donc, manifestement,
2000 cabinets au total, ouais. Et donc, sur la première moitié, effectivement, une vingtaine de cabinets, McKinsey n'étant qu'un des derniers, ouais, de ce cabinet, avec 1% de part de marché, donc, sur l'ensemble de l'enveloppe, pour la dernière période, alors que, effectivement, c'est le cabinet probablement le plus prestigieux au monde en la matière. En tout cas, c'est un nom un peu symbole de ce secteur à travers le monde. Donc, c'est curieux d'en faire un sujet McKinsey, alors que McKinsey est marginal dans cet usage de l'État.
Alors néanmoins, si c'est devenu un sujet McKinsey, Nicolas, c'est que le soupçon de certains, c'est que un certain nombre de collaborateurs de McKinsey, et pas seulement des juniors, hein, mais des seniors, ont aidé gratuitement, bénévolement Emmanuel Macron pendant sa première campagne électorale. Et donc, certains se demandent s'il n'y a pas derrière un renvoi d'ascenseur.
Renvoi d'ascenseur, quand on voit que ça fait que 1% effectivement de part de marché de l'ensemble des cabinets de conseil, très très loin derrière Capgemini, Eurogroup, ou même d'ailleurs Ernst & Young ou PricewaterhouseCoopers, qui sont également des cabinets anglo-saxons. On imagine très très bien qu'effectivement, l'idée qu'il y a, et il y en a eu, hein, des cadres de McKinsey qui ont donné de leur temps et de leurs compétences bénévolement pour Emmanuel Macron en 2017, on se dit, ah ben ça y est, il y a connivence. C'est l'un des éléments qui fait qu'il y a une affaire McKinsey et pas une affaire Capgemini, par exemple, ou une affaire cabinet de conseil. L'autre élément, c'est qu'il se trouve que McKinsey a été sollicité pour des moments du quinquennat marquants. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, l'histoire de la mise en place en conformité des systèmes d'information après la fameuse baisse des APL à l'été 2017. Mais alors après, vous avez tous les fantasmes qui s'installent. Et l'un des fantasmes qui circule, c'est que si on a baissé de 5 euros les APL à l'été 2017, c'est parce que McKinsey a dit qu'il fallait le faire. Ce qui est une pure vue de l'esprit. C'était inscrit en loi de finances avant le départ de François Hollande, depuis la loi de finances 2017, et c'est absolument McKinsey est venu là pour mettre à jour les systèmes d'information par rapport à cette baisse des APL. Et puis le troisième élément qui fait qu'on parle d'une affaire McKinsey, moi je connais pas les montages fiscaux de l'ensemble des cabinets, c'est qu'ils utilisent des prix de transfert massifs pour siphonner, c'est vrai, leurs profits réalisés sur le territoire français via un système de prix de transfert vers l'État du Delaware, qui est le paradis fiscal américain.
La filiale McKinsey France, domicile en Delaware, paye 750 dollars d'impôts par an.
Alors, je peux pas vous confirmer les chiffres. Je suis pas à la tête d'une commission d'enquête. Ce qui est certain, c'est que McKinsey, pendant 10 ans, a payé des cotisations sociales, a payé de la TVA, et visiblement n'a pas payé d'impôts sur les sociétés, à tel point que le président de la commission, le républicain du Sénat, a quand même confié au procureur de Paris une enquête pour savoir s'il y avait faux témoignage.
Jean-Charles Simon.
Deux choses d'abord sur l'ampleur de McKinsey dans le marché. Il faut rappeler qu'aussi pour McKinsey, cette fois, le public, c'est que 5% de son chiffre d'affaires en France. C'est-à-dire qu'il a moins de parts de marché dans le public que l'ensemble du marché du conseil n'a dans le secteur public. Donc il est plus sous-représenté que sur-représenté. Et deuxième chose, ce sont des appels d'offres publics très concurrentiels. Tout est sur la table et les cabinets concurrents, d'ailleurs, se battent pour les marchés.
Désormais, ils sont globalisés, ces appels d'offres, comme vous le savez.
Il y a eu deux accords cadres, ça n'était que deux accords cadres sur l'ensemble du marché du conseil. Et ces accords cadres, ils ont été très compétitifs. Et par ailleurs, sur l'affaire fiscale, ce que dit très bien d'ailleurs le président de Syntec dans les échos aujourd'hui, c'est que cette affaire des prix de transfert, lui, qui a un cabinet français avec des filiales à l'étranger, il l'utilise dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il rapatrie des résultats de ses filiales étrangères en France et qu'il faut bien comprendre que sur ce sujet, la France est bénéficiaire au flux d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'elle a plus de résultats rapatriés que de filiales de groupes étrangers qui n'envoient de résultats à l'étranger. Et c'est un sujet, évidemment, mais c'est bien pour ça qu'on fait l'accord au CDE.
C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est bien pour ça qu'on fait l'impôt minimal,
bien
désormais.
Bien sûr, si on fait l'accord au CDE sur la répartition de l'impôt mondial, parce que sinon, justement, le fisc n'a pas les moyens, souvent, de
dire que c'est illégal. Il n'y a pas d'illégalité, c'est vrai, mais il y a sans doute des choses à corriger,
exactement,
ce qu'on est en train de faire.
Et c'est pour ça qu'on veut armer les fiscs avec cet accord international pour pouvoir relocaliser de l'impôt dans tous les pays.
Merci Jean-Charles Simon, merci Nicolas Dose. On vous retrouve tous les deux, évidemment, dans Les Experts dans quelques instants.